Vous êtes toujours à l'écoute de Choc FM, je suis Elvis Nouamsi, bonjour et bienvenue à tous. Je suis très très heureux de vous retrouver aujourd'hui et je suis en compagnie de Isabella Huberman. Vous connaissez sans doute déjà ce nom, elle était déjà avec nous la semaine dernière pour nous parler des littératures autochtones. Elle a procédé à une mise en perspective très 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 importante des littératures autochtones et c'était d'autant plus nécessaire pour comprendre ce dont il sera question aujourd'hui puisque Isabella a décidé de nous parler d'un texte en particulier. Je vais commencer quand même par l'accueillir. Bonjour Isabella.
Bonjour Elvis.
Comment est-ce que tu vas?
Je vais très bien, merci.
Ça va? Tu as passé une bonne semaine, un bon week-end?
Oui, oui, absolument. Oui.
Très bien. Alors aujourd'hui, tu vas nous parler d'un texte. Tu as choisi un texte. Lequel?
Oui.
De quel texte est-ce qu'il s'agit?
Oui, donc je pensais qu'on pourrait continuer notre chronique sur les littératures autochtones francophones avec le premier texte écrit par un auteur autochtone du Québec. Donc, il s'agit d'un essai de Anne Antan-Kapesh, une femme Inoue. Et son texte s'appelle « Je suis une maudite sauvagesse, Ukwan nin machimanitu inu ishku ». Donc c'est le texte français et inu, puisque c'est un texte bilingue. Donc elle a publié ce texte en 1976. Et il faut préciser que Kapesh écrit en inu, et par la suite elle a été traduite en français, mais on considère son texte quand même comme le premier texte écrit en français parce que ça a paru en édition bilingue, inou-français. Et ce texte a été épuisé pendant un certain nombre d'années, mais tout récemment, en 2015, le Centre d'amitié autochtone du Saguenay a publié une réédition du texte avec révision de l'inou et du français. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, le peuple Inou est le peuple autochtone le plus nombreux au Québec, ayant le territoire le plus grand. Leur territoire traditionnel s'étend de la côte nord du Saint-Laurent jusqu'au Saguenay à l'ouest et au Labrador au nord. Donc, quand on regarde sur la carte du Québec et du Labrador, le territoire des Inou est presque la moitié de cette masse territoriale. Donc, c'est vraiment un territoire énorme.
Ok, très bien. Et alors, Isabella, maintenant, il faudrait que tu nous parles un tout petit peu de l'auteur en elle-même, parce que
oui,
tu as déjà fait allusion à elle, mais parle-nous un tout petit peu d'elle.
Oui, absolument. Donc, Anne Antan-Kapesh est née en 1926 et elle est morte en 2004. C'est une femme qui a vécu pendant la période où l'application des politiques du gouvernement canadien ont causé une transition importante dans le mode de vie des peuples autochtones au 20e siècle. Kapesh a grandi à l'intérieur de la côte nord et elle a connu la vie dans le bois jusqu'à ce que son peuple ait été placé sur les réserves dans les années 1950. Elle s'est alors déplacée à Malioténam, près de cette île. Ensuite, elle s'est redéplacée dans l'intérieur de la côte nord à Shefferville. C'est une ville industrielle créée par la compagnie minière Iron Ore Company of Canada, la compagnie IOC. Et elle a été chef des Inuits de Shefferville à la fin des années 1960. Donc, elle est devenue une porte-parole importante de son peuple pendant cette période. Et ce sont son expérience personnelle du racisme systémique et sa carrière en politique lors de cette période d'affirmation autochtone qui conditionne les impératifs à l'origine de son essai. Donc, ces impératifs dans son texte sont de défendre la culture Inoue et de contester la discrimination sociale et économique et les contraintes de la vie sous l'administration paternaliste du gouvernement canadien.
Très bien, Isabella, merci pour ces petits mots concernant l'auteur. Mais tu as parlé tout à l'heure, quand tu parlais, on pouvait déjà commencer un peu à deviner le contexte qui a pu pousser cette écrivaine à commettre cette œuvre. Mais est-ce que tu peux t'étendre un peu plus sur le contexte de l'époque?
Oui, certainement. Donc, les années 1960-1970 sont une époque où le mouvement d'affirmation autochtone fait des vagues à travers l'Amérique du Nord. Au Québec en particulier, une prise de conscience initiale des droits des Autochtones à la souveraineté territoriale et économique a lieu. À l'époque, la souveraineté est en fait une question de premier ordre dans l'espace littéraire et politique québécois. On a la Révolution tranquille, la crise d'octobre, la montée du FLQ et les débats autour de la tenue d'un référendum qui contribue à créer un changement de paradigme. mais le discours d'Anantan Kapesh reprend les thèmes omniprésents dans la société québécoise de son époque pour les transformer de façon radicale en les transposant en contexte autochtone. Donc c'est très intéressant ce qu'elle fait, parce qu'elle cherche à susciter une discussion de la souveraineté autochtone. C'est une souveraineté visant la reconnaissance des droits des Premières Nations, et c'est donc une discussion distincte de celle dont débat dans la société québécoise de l'époque. Okay. Donc c'est vraiment la première à parler des droits des peuples autochtones.
Ok, très bien. Mais alors, de quelle manière est-ce qu'elle aborde ces sujets-là? Quels sont les angles sur lesquels elle traite les thématiques qui viennent dans son texte?
Oui, donc le texte de Kapesh est un texte dur sur la colonisation. C'est un texte de choc. C'est pas très facile à lire pour tout le monde. C'est un essai polémique qui montre un certain engagement littéraire, mais c'est aussi en partie une autobiographie. L'histoire de la vie de cette femme, c'est une vie très fascinante, et aussi une auto-histoire. L'histoire de son peuple, écrit par un membre du peuple. Donc, chaque chapitre de son essai est un épisode autonome dénonçant les réalisations et les institutions du blanc. Donc, le blanc, c'est le terme qu'elle emploie comme synecdote pour se référer aux Québécois et aussi les Canadiens, mais aussi aux politiques du gouvernement. Donc, elle crée un groupe homogène au singulier, le blanc, qu'elle oppose toujours à un nous, les Inuits. Et dans son texte, il y a un peu de tout. Elle parle de l'exploitation du minerai dans son territoire, le marchand d'alcool, les gardes-chasse, l'éducation, le système judiciaire, en passant par les journalistes et les médias, bref, toutes les structures et organisations qui lui apparaissent injustes et aliénantes pour les peuples autochtones. Et à chaque occasion, elle pointe du doigt ses réalisations et les accuse d'avoir détruit la culture Innu.
Ok, très bien. Alors, mais pour que nos auditeurs comprennent clairement de quoi il s'agit, parce que là, tu as vraiment brossé, et je t'en remercie, hein, j'irai un portrait global du texte, mais est-ce que tu peux choisir quand même quelques extraits marquants, même si tu as prévenu au départ que c'était un texte dur?
Oui, oui, absolument. Donc, il y a de nombreux passages qui sont très marquants dans cet essai. Je pourrais donner deux exemples. Donc, premièrement, sa description de l'impact de l'éducation blanche sur les Innus et la division que cela a créée entre les générations est vraiment forte. Cette description est vraiment forte. Elle explique comment, traditionnellement, l'éducation parmi les Innus se déroulait dans un contexte familial. Les aînés détenaient un rôle essentiel dans la transmission du savoir. Ce sont les aînés qui sont reconnus comme les intellectuels, les philosophes, les théoriciens et les historiens de leur nation. Mais avec la mise en place des pensionnats autochtones, tout ce système a été détruit et ça a eu des conséquences beaucoup plus larges qu'un simple affaire d'éducation. Donc, les pensionnats, pour ceux qui ne savent pas, sont le système scolaire du gouvernement canadien. C'était un système de scolarisation forcée des enfants autochtones qui a enlevé les enfants à leur famille, à leur communauté et à leur territoire. Donc, Anantan Kapesh présente ces écoles comme des lieux de déculturation d'une grande violence, entre autres par les écoles cause l'éclatement des familles en séparant physiquement les parents de leurs enfants. La scolarisation forcée des enfants a eu des conséquences désastreuses au sein de la famille. Elle crée une différence culturelle et linguistique entre les générations. Et Anantan Kapesh est essentiellement la première à relever ce problème et à le mettre à l'écrit. Aussi, ce que j'aime beaucoup dans ce texte est la façon dont elle utilise son essai pour rectifier et essentiellement réécrire l'histoire de sa région. Donc, son livre remet en question la validité de ce qui a été écrit comme histoire et du rôle des Innus dans l'histoire. Par exemple, quand elle parle de la découverte du minerai de fer dans le Nord, c'était une découverte très importante qui a apporté beaucoup de projets de développement économique à la région. Anantan Kapesh contraste ce qui est écrit dans les livres avec ce qu'elle a toujours su en entendant son père et les autres aînés raconter l'histoire. Donc, ce qu'elle a entendu de son père, c'était qu'un homme Innu, Chichenish Pien, était le véritable découvreur du minerai. Mais le gouvernement canadien a reconnu que c'était deux pères catholiques qui ont découvert ce minerai. Dans son livre, Capesh corrige le récit de l'histoire que les Blancs font circuler en s'appuyant sur le récit de son père. Elle situe son texte écrit dans la lignée des histoires de son père et des autres aînés, et elle valorise la transmission orale comme une source bien plus fiable que la transmission écrite. En fait, si je peux la citer ici, elle cite son père qui lui dit « Voyons, n'écoute pas ce mensonge, l'histoire que tu as entendue, c'est l'étranger qui vient de l'éventer. » Donc, ces passages ont pour fonction de rectifier l'histoire telle qu'elle est relatée par les colons et d'illustrer comment le savoir innu est construit dans un échange et un transfert entre les personnes.
Très bien, merci Isabella. Mais alors, la question que j'ai envie de te poser, parce que tu as fait un récit sombre, ça ressemble quand même à un constat global d'échec, mais il y a quand même quelque chose de positif là-dedans?
Oui, il y a quelque chose de positif là-dedans. Par exemple, quand elle parle de l'éducation, Capesh est une des premières à dire que c'est un problème, que c'est pas normal que ses enfants comprennent mieux leur enseignant blanc que leur mère. Donc, en ciblant les problèmes, elle montre des solutions. C'est presque un manuel de comment faire pour les autochtones. Elle dit, par exemple, que les enfants devraient avoir une éducation innu, que leur enseignement devrait se dérouler dans la langue innu. Aujourd'hui, ces commentaires sur l'éducation ont des échos dans les communautés autochtones où on met en place des programmes de résurgence culturelle. Donc, les programmes contemporains suivent les prescriptions que Capesh a données dans les années 1970. Donc, c'est assez formidable ce qu'elle a fait. Et à part le côté politique, Capesh a ouvert la voie aux autres écrivains. Donc, ça aussi, c'est le côté positif. Elle a publié un livre pendant une période où le public québécois et canadien n'écoutait pas du tout les voix des peuples autochtones. Et c'est en partie grâce à elle que d'autres ont pu publier après. Donc, on peut même voir un héritage voulu ou non dans les récits des écrivains contemporains.
Ah, c'est formidable, Isabella. Je t'avoue que c'est toujours avec beaucoup de difficultés qu'on arrive au terme de nos entretiens parce que tu parles de choses vraiment passionnantes et je pense que tu fais un formidable travail pour nos auditeurs, notamment ceux qui n'ont pas le temps de lire parce que il y a beaucoup qui ne liront pas, mais il y en a certainement que ça intéressera. Mais quoi qu'il en soit, je suis content qu'ils reçoivent ce message. Je te dis encore merci infiniment et j'espère qu'on te retrouvera ici la semaine prochaine pour...
Oui, absolument, Elvis. C'était mon plaisir.
Ok, très bien. Donc, restez en compagnie des programmes de Choc FM et à la semaine prochaine avec Isabella Huberman. Au revoir.